Pluriel Gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Eh bien bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices, bonsoir Bernard. C'est Bernard ce soir qui est parmi nous pour faire la technique.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à notre invité et mes meilleurs voeux puisque la semaine dernière j'étais pas là.
C'est exact.
Donc je présente mes meilleurs voeux à tout le monde.
Très bien, ben, nous te présentons aussi les nôtres mon cher Bernard pour l'année 2017. Et effectivement nous avons avec nous notre chroniqueur cinéma favori et unique d'ailleurs.
Un invité de prestige.
Un invité de prestige, voilà, directeur artistique du festival Écran Mix dont nous avons souvent eu l'occasion de parler ici. Et en fait, là, tu es ce soir pour chroniquer, enfin pour chroniquer. On a fait une émission spéciale qu'on a appelée The Closet Monsters. On verra pourquoi plus tard. Mais auparavant, on a beaucoup parlé, déjà ici et ailleurs aussi, de la coupure, la coupe sombre faite par la région Auvergne-Rhône-Alpes, présidée par Laurent Wauquiez.
La suppression pure et simple.
Voilà, la suppression donc des subventions au festival de cinéma LGBT.
Voilà, non argumenté en ce qui nous concerne. Donc, c'est une décision non argumentée.
D'accord.
On a reçu un papier en disant qu'on n'aurait pas la subvention. Voilà, basta. Débrouillez-vous avec ça.
Ouais. Alors, évidemment, on peut supposer que ça fait partie de l'éthique politique de Laurent Wauquiez et de son équipe, pour qui le LGBT, ce n'est pas une priorité, de toute façon. Et c'est quelque chose qui, finalement, devrait retourner dans le placard, au fond, quelque part.
Ben oui, c'était oui. C'est nous invisibiliser. Donc résultat, il y a eu un mouvement de solidarité extraordinaire.
Ouais.
On a fait de nouvelles demandes privées et publiques. Et finalement, l'édition aura bien lieu. Il était hors de question qu'on réduise la durée. Au contraire, il y aura encore plus de projections. À peu près une trentaine de projections sur une quinzaine de lieux à Lyon. Et puis, on va aussi occuper l'espace. On va très certainement avoir des espaces de co dans le Grand Lyon. On va avoir une meilleure diffusion aussi des catalogues.
Ouais.
On est à la croisée des chemins et aujourd'hui, on a des adversaires de l'égalité. Et on va continuer à faire notre travail puisque c'est un travail essentiel.
Alors finalement, cette mésaventure galvanise un peu les choses, puisque d'emblée, tu me disais que des personnes, des privés, avaient fait des dons, même des tout petits dons au festival, de 10 euros parfois, des étudiants sans beaucoup d'argent.
Ben, on a reçu, oui, un don de 20 euros d'une personne, vraiment qui a envoyé un message très touchant en disant « je suis étudiant, je ne peux pas donner beaucoup » et tout. Ça nous a énormément touchés. On a aussi d'autres dons plus important et c'est vraiment en fait pour dire la vérité, moi perso j'avais un peu les batteries à plat juste avant le festival parce que je sentais que ça allait venir cette histoire de région. C'est quand même très démoralisant quand même. Et puis finalement ça nous a complètement boosté cette affaire, ça nous a complètement, on est hyper combatifs, on a envie de faire un festival encore plus flamboyant, encore plus génial, avec plus de séances gratuites pour donner encore plus d'accès maximum de gens. Et en fait finalement c'était assez bénéfique puisque finalement, on a réussi à équilibrer le budget et en plus, on est remonté à bloc.
Puis on peut dire à quelque part qu'il y a donc beaucoup de gens tiennent au festival Écran Mixte, puisque avez eu spontanément, je dirais, des propositions.
Et des relais sur les réseaux sociaux et des messages de soutien. Oui, de toute façon, ce festival, il appartient aux gens. Tout simplement. Maintenant, il y a un avant et un après Écran Mixte. Avant, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, les gens sont habitués à ce festival et puis il leur appartient. On ne peut pas leur enlever ça.
Alors, justement, moi, la question qui m'est venue à l'esprit avec toutes ces péripéties liées à la suppression des subventions par donc une région dirigée par la droite, quel est l'avenir, justement, des festivals LGBT, du financement, surtout, des festivals LGBT? Parce qu'il est vrai qu'en France, on a gardé cette habitude de s'adresser plutôt au pouvoir public, aux institutions publiques pour financer les festivals, etc. etc. On sait que depuis quelques années, d'une manière ou d'une autre, ça baisse, les subventions baissent régulièrement, que ce soit sous des gouvernements de droite ou même sous le quinquennat qui vient s'achever de François Hollande, au nom de la toujours éternelle, réduire les déficits, etc., etc. Voilà, serrer le budget, arriver à moins de 3% de déficit. Bon, on connaît les critères de convergence de l'Union européenne auxquels la France a adhéré aussi. Alors que dans d'autres pays qui ont intégré déjà ce fonctionnement, allemand, je parle par exemple au monde anglo-saxon, qui s'attend moins à ce que les instances publiques les aident. Des grands festivals comme le Festival de cinéma de San Francisco, par exemple, même s'ils reçoivent des subventions municipales, l'essentiel viennent du privé, quoi. Ce sont des subventions privées. Est-ce que l'avenir en France, est-ce que ça va être le privé? Ça va passer par le privé, à ton avis? Est-ce qu'on va vers cette évolution-là, vers celle des pays anglo-saxons?
De toute façon, il va falloir qu'on remette tout à plat, hein, pour l'avenir. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Mais le fait est que nous, on était quand même très attachés à la reconnaissance institutionnelle. Voilà, la reconnaissance de nos représentants. Finalement, on est reconnus par les piliers de la démocratie, quoi, quand même. Et donc, d'où cet attachement à la reconnaissance auprès des bibliothèques municipales, auprès des grandes institutions, auprès de la ville, de la région. Là, c'est carrément une région qui nous dit « vous n'existez pas pour nous ». Il faut rappeler quand même que le budget culture de la région, c'est moins de 1% quand même. Donc imaginez ce que représentaient les 3000 euros qui nous accordaient. Donc effectivement, pour l'avenir, il va falloir repenser tout ça. Il va falloir aller plus vers les partenariats privés et puis étendre au maximum pour être évidemment plus indépendant aussi.
Oui.
Mais nous sommes quand même très attachés à la reconnaissance institutionnelle qui est primordiale aussi pour les festivaliers. Parce que là, c'est quoi le message lancé aux jeunes ? Aujourd'hui, c'est voilà, là, vous n'existez pas auprès de l'instance de la région, ça veut dire ça en fait. C'est quand même assez déprimant.
Oui. Pour lui, pour la région, visiblement, les manifestations du type des festivals de cinéma LGBT, par exemple, n'ont pas de légitimité.
Ben non, puisqu'ils disent que c'est... la décision de la région était non argumentée, hein, mais on sait très bien de ce qui se dit dans ce milieu-là, un petit peu de républicain de droite, c'est que ce sont des festivals communautaires destinés à une très faible population. Et que c'est contre leurs valeurs. Bon, d'abord, c'est pas du tout un festival communautaire puisque c'est un festival grand public qui a lieu dans des espaces publics tels que le cinéma. Quoi de plus fédérateur que le cinéma ? Et le but est non pas de faire du prosélytisme, pas du tout, mais c'est de réfléchir ensemble à un monde plus égalitaire et plus juste. C'est juste ça, réfléchir ensemble à une société plus juste via la culture, via le cinéma, via des documentaires et via aussi des films du patrimoine.
Alors, suite à donc cette affaire, il y a eu donc une couverture nationale, on va dire, et tu as souvent été sollicité par les médias nationaux. On t'a entendu sur France Inter,
Bien sûr, mais oui.
Voilà. Et je sais que pour un des, je ne sais plus sur quel, pour quel journal, tu as dit que tu invitais Laurent Wauquiez à venir de lui-même constater comment se déroulait le festival.
Mais nous allons.
Et l'invitation tient toujours.
Mais bien sûr, on va envoyer des cartons, des cartons d'invitation officiels aux élus de la région Rhône-Alpes. On va les inviter à l'ouverture. Pour qu'ils viennent et pour qu'ils se rendent compte que c'est pas du tout un festival communautaire, que c'est un festival très utile et que c'est surtout un festival aussi très très suivi d'un public très différent, puisqu'ils verront que dans les salles il y a autant des abonnés que des cinéphiles, que des gens concernés. Voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on fait avancer une société. C'est en connaissant mieux ceux qui la composent, tout simplement, ne pas avoir de préjugés et discuter tous ensemble, c'est ça.
Alors, est-ce que ça ne pose pas aussi la question justement de la fragilité du financement public, puisqu'il peut disparaître du jour au lendemain finalement ?
Ben oui, tout à fait. Oui, la preuve. Donc, effectivement, on est en train de chercher des partenariats privés. On en a trouvé pas mal et on en est très très content. Et en plus, ce sont des bons partenariats privés. On prend pas n'importe quoi. Hein. On a, par exemple, changé de banque. On est allé dans une banque mutualiste. Voilà. Donc, on va chercher aussi des partenariats privés qui correspondent à notre ligne éditoriale et à notre esprit.
À l'état d'esprit du festival,
voilà.
Oui.
Voilà.
Qui n'est pas de faire de l'argent, en fait, évidemment.
Non, voilà, on va pas prendre une pub chez Total, si vous voulez. Ouais. Voilà.
Quoique s'ils vous donnaient de les sous, peut-être que vous le prendriez, parce qu'en plus, Total, ils sont riches.
On en discutera en conseil d'administration. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, nos partenaires, c'est des partenaires, partenaires humains qui ont un esprit quand même associatif et culturel. Voilà. Et qui s'engagent aussi dans la culture, très clairement.
Alors, il y a plusieurs façons de s'engager aussi de la part des collectivités territoriales, dont une peut-être, par exemple, la mise à disposition de ce dont disposent déjà, par exemple, les mairies, etc., à travers leurs établissements publics, de bibliothèques, par exemple. Et si je t'amène ce sujet, c'est que tu as évoqué récemment donc la possibilité, peut-être, de l'ouverture d'un fonds d'archives à la bibliothèque municipale de Lyon.
Alors, on s'est rendu compte que Rennes était acquis, justement, hein, et qu'on essayait de nous... on essayait tout simplement de, bon, de nous invisibiliser, mais aussi, peut-être aussi de nous détruire, hein, qu'on n'existe plus. Donc, rien n'est acquis. Donc, on a cette idée aussi de créer un fonds écran mixte à la Bibliothèque municipale de Lyon. L'idée est de reconstituer l'histoire du festival et de tous les invités qui sont venus au sein d'une institution publique pour graver dans le marbre notre histoire collective et commune. Et l'idée est donc de demander à nos invités de nous faire un don donc à la bibliothèque municipale. Ça peut être un scénario original, ça peut être une affiche originale, ça peut être des dossiers de presse d'époque. Imaginez la valeur que peut valoir, par exemple, des journaux, des critiques, des premiers films gays qui sont sortis en France, par exemple.
Ouais.
C'est inestimable. Ou même le scénario, par exemple, de Nous étions un seul homme, la première fiction homosexuelle française. Avoir ce scénario original-là, qui soit gravé dans le marbre, dans une grande institution... c'est quelque chose de fabuleux. Et on s'est rendu compte qu'au moment où on essaie de nous attaquer, il faut graver dans le marbre notre histoire et aussi... voilà, et tous ces gens qui sont venus, tous ces invités font partie de notre histoire collective, de la construction de notre culture.
Ouais.
Et voilà, donc ce ne seront pas des documents, ce ne seraient pas des documents consultables par tous en rayon, ce seraient des documents donc consultables par les chercheurs, les historiens et les personnes qui les demandent.
Voilà. Oui, pour par exemple dans le cadre d'une exposition.
Dans le cadre d'une exposition, on peut les sortir, et si on les utilise, on met des gants blancs.
Alors, il existe déjà le fonds Chomara, d'ailleurs, qui utilise ce même principe.
Alors, le fonds Chomara, c'est un fonds privé.
Oui, c'est à la, qui est à la bibliothèque municipale.
Alors, c'est un fonds privé où il y a effectivement un partenariat avec la ville de Lyon, une convention avec la ville de Lyon, mais c'est un fonds privé. C'est-à-dire, ce fonds, il peut le retirer quand
d'accord.
il veut. Voilà. Mais nous, c'est un don qu'on va faire.
D'accord.
Nous, ce qu'on voudrait, c'est des dons. Ce n'est pas un don privé, ce sera un don à la bibliothèque.
Ouais.
Voilà. Et donc avec un système de référencement comme quoi c'est écran mixte. Voilà.
D'accord.
Gravé dans le marbre, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et puis il peut y avoir une guerre, et bien ces documents seront dans un silo, bien au chaud.
J'adore l'optimisme de Yvan.
Bah, espérons bah, écoute, t'as vu ce qui se passe avec Poutine, là, oui. Voilà, aux États-Unis, bon, on est à l'abri de rien du tout, là.
Peut-être.
Crash boursier, machin.
Espérons que non. Et puis, il peut y avoir aussi l'arrivée au pouvoir en France d'un pouvoir un peu fort, un peu totalitaire, on dira. On n'est pas à l'abri de ça, finalement. Qui pourrait... Mais alors là, il va falloir prendre les documents et puis les envoyer, les numériser de façon à les envoyer à l'autre bout de la planète. Est-ce qu'on a cette possibilité-là ?
Au numérisé, ça ne garantit absolument pas la préservation des documents. Aujourd'hui encore, on retrouve des documents égyptiens, des papyrus qui datent de 5000 ans. Mais le jour où il n'y a plus d'électricité au monde, hein, ça n'existe plus, le numérique. Hein, tout ça.
Et puis, ce qu'on ignore, beaucoup de gens ignorent, c'est que le numérique n'a pas une durée de vie si longue que ça. Les données s'effacent avec le temps.
On n'a absolument aucun recul pour parler de ça.
Voilà.
On n'a aucun recul. Alors moi, je peux vous parler, par exemple, de la préservation des films de cinéma. Vous savez que, par exemple, quand une cinémathèque restaure un film, elle en fait une copie numérique, mais elle en fait aussi une copie 35 mm. Pourquoi ? Parce que d'abord, les films Lumière, par exemple, ils existent depuis 120 ans. Ils n'ont pas été effacés. Ils se sont détériorés, certes, parce qu'à l'époque, les qualités des pellicules étaient moindres qu'aujourd'hui. Mais n'empêche que 120 ans après, ces films Lumière, ils existent encore. La preuve, on peut les restaurer.
Et on peut les restaurer, travailler sur les films.
Mais quand on les restaure, il y a une copie numérique, une copie 35 mm, une copie pellicule physique.
Voilà. Ouais. Alors, en fait, pour introduire la suite de l'émission, nous allons donc fermer la parenthèse Laurent Wauquiez Festival Écran Mix qui va commencer bientôt.
C'est du 8 au 14 mars.
Voilà.
La programmation, elle est aux deux tiers bouclée. On fait des projections pratiquement tous les jours. On se regarde 3-4 films par jour, des documentaires, des courts-métrages, des longs-métrages. On fait un tri. On choisit pour avoir une vraie belle ligne et que tout le monde puisse s'y retrouver. Cette année, l'année dernière, on a un peu pêché sur les films féminins. Cette année, il y en aura beaucoup plus, et en fiction et en documentaire.
D'accord. Alors, pour... on attend ça avec impatience. En plus, c'est synonyme du retour du printemps, finalement, hein, écran mixte. Écran mixte fait le printemps à Lyon. Donc, pour introduire, comme je disais, la suite de notre émission, que tu as intitulée The Closet Monsters, et on verra pourquoi... On va diffuser une première chanson, alors qui est une chanson de Jackie Chan que j'aime beaucoup, qui s'appelle Champagne, qui parle de monstres, de ghouls, enfin c'est un peu de ça dont nous allons parler après. Monstres, ghouls, vampires, morts-vivants, loups-garous.
Car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. saisi d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous pages pervers, courez au cimetière, prévenez de ma part, mes amis nécrophages, que ce soir nous sommes attendus dans les marécages. Voici mon message. Au ciné noir, près de la mare aux souliettes, venu du sphère obligatoire. Lutin, Luciole, feu follet, elfe, faune et farfadet, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, vous avez remarqué. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de lubriques vestales, égéries insatiables chevauchant des valkyries, infernales appétits de frénésie bacchanale. Charme nous âmes envahies par la mélancolie. Envoie satire joufflu, bouc émissaire, gargouilleuse émue, fière gorgone. Laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Lucifer en personne fait une courte apparition. L'air tellement accablé qu'on lui donnerait volontiers le bon Dieu sans confession. S'il me laissait malicieux courir le bout de sa queue devant ses yeux maléfiques, et ne se dressait un bon dans un concert de jurons disant le tout pathétique. Le ciel blanchi, esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu. Cochez lugubre et bossu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail et me cherchez sans retard. L'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi.
Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Et voilà, qu'on se le dise, Bernard à la régie, Yvan dans les studios. Voilà, ça annonce de belles choses. Donc, on parlait avant la petite pause musicale, Jacques Higelin, Champagne, dont on avait dit qu'on allait parler de monstres. Mais de monstres dans le cinéma, de films d'horreur. Mais sous un jour un petit peu particulier, puisqu'on est dans une émission LGBT, et on avait voulu donner quelque chose d'un peu queer, un peu gay, un peu camp, kitsch, tout ce qu'on veut. Donc, au film d'horreur, parce que finalement, le film d'horreur, parfois, souvent, même, a plusieurs lectures. On peut lire, comme beaucoup de films, à plusieurs niveaux. Et souvent, les films d'horreur, surtout dans
les films de monstres, en particulier.
Les films de monstres, voilà, sont souvent des thématiques qui recoupent, souvent sont, on peut déchiffrer à l'aune d'un cryptage gay, par exemple, lesbien, etc., etc. Et ça concerne peut-être beaucoup les films anciens, je ne sais pas, parce que on parle souvent du code ICE aux États-Unis, par exemple. Où notamment les allusions à l'homosexualité étaient interdites et souvent les cinéastes étaient obligés de détourner un petit peu les codes justement pour pouvoir parler d'homosexualité, donc de façon détournée, de façon à ce que le public concerné quand même reçoive le message subliminal. Voilà.
Et puis ça permettait aussi de parler d'exclusion, ça permettait de parler aussi de c'était très souvent aussi des fables sur la différence, avec des créatures un petit peu transgenres. Alors d'abord, on va revenir au début. Hein, le premier grand roman, on va dire.
Oui, voilà, parce que j'allais dire, quand on parle de films d'horreur de l'ancienne époque, on parle souvent des vents, on pense aux vampires.
Ce sont des adaptations très souvent de romans déjà.
Voilà, et au 19e siècle, il y avait une littérature d'horreur, et on pense notamment à Bram Stoker, celui qui a écrit Dracula. Mais tu me disais des choses extraordinaires sur Bram Stoker que j'ignorais, hors antenne.
Alors, voilà, donc il y a toute une tradition, si vous voulez, de romans gothiques anglais. Ça vient des poèmes, par exemple, de Mary Shelley ou de Lord Byron.
Mary Shelley, c'est Frankenstein, c'est le monstre.
C'est l'auteur de Frankenstein. Et donc, il n'est pas anodin que le premier grand auteur, on va dire, que l'auteur de Dracula, Bram Stoker, était homosexuel. Elle était mariée, bien évidemment, comme Oscar Wilde, me semble-t-il. Mais en tout cas, il a eu notamment une aventure avec Oscar Wilde et l'auteur George Bernard Shaw. Donc, en tant qu'homosexuel, il a eu besoin de parler par le biais du fantastique et par le biais de la fable, de parler de la différence, de l'exclusion. Parce que Dracula, c'est quoi après tout ? Dracula, c'est quelqu'un qui donc a une malédiction, qui est quelqu'un qui est maudit, qui est rejeté donc de la société, de son village. Il vit donc reclus, seul, dans sa solitude la plus absolue, et surtout il vit que la nuit. C'est quoi la vie des homosexuels à cette époque-là, en tout cas au deuxième siècle? C'était quoi? C'était des créatures de la nuit.
Oui, Bram Stoker et Oscar Wilde ont en commun, donc ils étaient contemporains puisqu'ils ont été.
Ils étaient amants,
de vivre à l'époque victorienne, qui était une époque assez restrictive et répressive même sur la sexualité, notamment sur l'homosexualité, puisqu'on sait qu'Oscar Wilde a été condamné aux travaux forcés pour fait d'homosexualité. Donc c'était une époque de placard complet, on dirait.
Ben oui, et puis surtout d'une pression sociale absolument inimaginable.
Fin de parenthèse, Oscar Wilde a écrit ce fameux portrait de Dorian Gray, qui en son sens est une nouvelle fantastique aussi.
C'est une nouvelle fantastique, mais c'est surtout une fable sur l'homosexualité, clairement. D'ailleurs, là, il y a une nouvelle traduction là, qui est parue cette année, qui est beaucoup plus explicite aussi. Il faut savoir aussi que le portrait de Dorian Gray faisait partie de l'enfer des bibliothèques jusqu'en 1981. Il faut savoir que c'est Mitterrand qui a ouvert les enfers des bibliothèques en France. C'était quoi ? C'était tous les ouvrages qui étaient considérés comme subversifs, pornographiques ou tout ça. Ils étaient interdits au public. Mitterrand, il a tout ouvert. Il a dit, bon, par contre, il y a un âge légal pour lire certaines choses, mais il a ouvert les enfers. Et le portrait de Dorian Gray faisait partie de l'enfer des bibliothèques. C'est comme hallucinant.
Alors, pour revenir à Bram Stoker qui a écrit Dracula, je voudrais aussi dire que le roman est très misogyne, par contre. Je ne sais pas si tu as lu le roman.
Alors, c'est un roman...
C'est extrêmement misogyne. Les femmes sont présentées comme des petites créatures chétives et toutes bêtes, un petit peu, qui sont en admiration devant les hommes la plupart du temps. Enfin, c'est très
misogyne.
C'est
aussi un reflet de la société de l'époque.
Ouais.
Donc, c'est quand même un auteur gay qui va créer ce personnage de Dracula. Et ce qui est marrant aussi, c'est de voir que les premiers cinéastes qui vont s'emparer, si tu veux, des grands thèmes, des grandes figures monstrueuses au cinéma, c'était au début des réalisateurs gays. Le premier cinéaste à avoir adapté Dracula, c'est Murnau, en 1922, avec son Nosferatu. Il change le nom parce que la veuve de Bram Stoker n'a pas voulu lui donner les droits d'adaptation.
Ouais. Et Nosferatu, c'est le nom du mort-vivant, je ne sais plus dans quelle langue, en roumain, je crois. C'est le Nosferatu, c'est le vampire, le mort-vivant.
Et donc là, dans le Nosferatu, il y a clairement des allusions à l'homosexualité très claires, notamment lors de l'arrivée de Jonathan Harker, qui arrive donc chez Dracula, chez Nosferatu. Il y a cette fameuse scène qu'on retrouve dans toutes les adaptations, pardon, j'ai pas picolé avant.
Tu aurais dû, Yvan.
C'est apéro. Il y a une scène qu'on va retrouver dans toutes les adaptations de Dracula, c'est cette fameuse scène du repas,
ouais,
où Dracula donc convie Jonathan Harker a mangé, et Dracula entend par la fenêtre des bruits lointains, des cris d'animaux, des cris de loups, et Dracula dit « Écoutez-les, ce sont les enfants de la nuit ». Les enfants de la nuit, c'est quoi ? C'est bien sûr les homosexuels qui chassent justement la nuit, qui sortent une fois que tous les villageois sont endormis. Il y a une deuxième séquence aussi dans cette fameuse scène du repas. C'est la scène où Jonathan Harker va couper un morceau de pain, il va se couper le doigt avec le couteau. Et dans le film de Murnau, Nosferatu se jette sur son doigt pour le sucer. Pour lui sucer le doigt. Et ça bon, tu vois clairement à quoi ça fait.
De toute façon, tout ce qui est vampiresque, c'est très sensuel, en fait, déjà. D'abord, les vampires, c'est des gens qui sont très raffinés, très sophistiqués, en général. Et puis, bon, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sucent les autres. Enfin, je veux dire, ils sucent le sang des autres, évidemment. Mais ça s'apparente quand même à un baiser. Ça se commence souvent par un baiser, d'ailleurs. Un baiser dans le cou, un suçon, quoi, n'importe quoi, une caresse, un baiser, et clac ! Et il absorbe l'énergie vitale de l'autre.
Ah oui, il y a une domination sur l'autre, il y a une fascination aussi, il y a une séduction qui sera beaucoup plus explorée ensuite dans les films de la Hammer dans les années 50 et 60. Mais tout est là déjà.
Et puis le vampire, c'est toujours raffiné. Contrairement au loup-garou, qui a un côté plus brut de chez brut, tu vois, on verra mal un loup-garou gay, par exemple, alors que le vampire, lui, il est gay, il est raffiné, l'aristocrate du 18e, avec des chemises en jabot en dentelle, une canne avec un pommeau en tête de mort, tu vois, c'est très classe, très élégant, très raffiné à mon image, par exemple. Non, pardon, je dévie. Continuons.
Et donc, après, il y a un autre grand metteur en scène homo, lui, qui vivait de manière complètement extravertie son homosexualité, tout comme Murnau aussi. C'est James Whale, le réalisateur américain, qui lui était entouré d'une ribambelle de jeunes gigolos. Et surtout, ce qui est fascinant, c'est que lui il va y aller cash. Dès le film Frankenstein, il va apporter en plus une espèce d'humour camp complètement délirant. Et lui va clairement traiter de la différence via le mode du conte. Dracula, Frankenstein, c'est quoi finalement ? Frankenstein, c'est une créature transgenre et fabriquée de plusieurs morceaux différents. C'est une créature transgenre, elle est créée par un homme, par Frankenstein.
Par le docteur Frankenstein.
Par le docteur Frankenstein.
Frankenstein.
Et surtout, c'est une créature qui est considérée aussi comme un sous-homme, qui n'est pas vraiment un homme, qui est un sous-homme. Sous-homme, c'est un petit peu, c'est ce qu'on dit aussi des homosexuels. C'est quelqu'un qui vit dans une solitude extrême, qui vit vraiment dans sa chair la souffrance du rejet, et qui est en quête absolue d'amour et de reconnaissance. Tous les personnages de Frankenstein, dans toutes les adaptations, c'est toujours ça, ce personnage à la recherche d'un ami. D'ailleurs, tout le long du film, il n'arrête pas de crier « Friend, friend », il cherche un ami. Et puis, cette quête d'amour, de reconnaissance, d'ailleurs, qui est très bien traitée dans une série récente qui s'appelle « Penny Dreadful », dans laquelle le personnage de Dracula est très, très bien rendu. Ce côté pathétique, vraiment très seul et en quête d'amour, et qui est considéré aussi comme un monstre, par les autres à cause de sa différence.
Alors Frankenstein, ce qui est intéressant, c'est aussi la fin du tout premier film où il est pourchassé par les villageois pour être tué, quoi, en fait.
Bah, c'est-à-dire que c'est
on
aussi...
pense à des tas de choses, on pense à des films. Alors, on a souvent rapproché cette scène avec la scène de, comment s'appelle-t-il ce film,
Soudain l'été dernier,
où à la fin le personnage homosexuel est tué par la population, par les enfants du village. Et puis ça fait penser aussi un peu à Scène de chasse en Bavière, où bon, voilà, le personnage
Alors à la fois il traite de la différence, et aussi il va faire une dénonciation de la dénonciation et aussi de la stigmatisation et la persécution dont souffrent les homosexuels. Il ne faut pas oublier que dans les années 30, aux États-Unis, il y avait quand même le Ku Klux Klan, qui était très actif, qui pourchassait aussi les homosexuels. Il y avait des chasses à l'homme, il y avait des lynchages. Et il parle de tout ça aussi dans Frankenstein. La scène finale de Frankenstein, c'est quoi ? C'est tous les villageois, flambeaux à la main, on pense au Ku Klux Klan, qui pourchassent donc Frankenstein, qui se réfugie donc dans un moulin, et ils vont mettre le feu au moulin et il va périr.
Alors qu'on sait que le monstre en lui-même est en soif de reconnaissance et en même temps possède en lui-même une forme de bonté.
De bonté, oui. De bonté.
Mais les gens ne voient en lui que le monstre.
Que le côté monstrueux. Mm. C'est l'archétype de l'homosexuel finalement, aussi à cette époque-là. Ouais.
Et il faut savoir que les homos étaient brûlés notamment... par l'église, il finissait souvent sur les bûchers. Donc là, il finit dans un moulin brûlé. Voilà encore autre, peut-être, rapprochement qu'on peut faire avec la destinée lugubre de nos ancêtres.
Alors, il y a aussi... Alors, James Whale va faire une suite absolument extraordinaire à ce film. En 1935, 4 ans plus tard, infiniment supérieur au premier qui s'appelle La fiancée de Frankenstein.
Bah, je suis d'accord.
Classique absolu.
Extraordinaire.
Et qui est drôle. Bah, alors, vraiment, il y a vraiment un humour PD là-dedans, complètement délirant.
Le personnage même de la fiancée.
Alors voilà, alors Frankenstein va créer, parce que Frankenstein ne trouve pas d'amis, il va lui créer une femme. Sauf qu'elle doit être un peu gouine quand même, parce qu'elle le rejette immédiatement, elle n'en veut pas de l'homme.
Elle le voit, elle hurle, mais en même temps, je comprends un petit peu, parce que physiquement, c'était quand même.
Mais c'est pas par rapport à la monstruosité, à mon avis, parce qu'elle est aussi monstrueuse. Non, c'est parce que c'est un homme, pour moi, c'est ça que je vois. Mais alors là, on est quand même dans l'humour queer complètement délirant. Il y a un personnage d'inventeur dedans qui est une folle invétérée, on dirait Jean Cocteau avec des cheveux complètement hirsutes. Et surtout, il y a une scène inoubliable dans le film. C'est une scène de rencontre entre la créature et donc un vieil ermite qui vit seul donc dans la forêt, dans une mansarde. Et cet ermite est aveugle. Et c'est le seul ami qu'il va trouver, puisque cet homme aveugle ne va pas voir la monstruosité de la créature, mais va être touché par son humanité et par son cœur. Et donc, il va y avoir des séquences quand même assez cocasses où ils vont vivre tous les deux, le vieux et la créature vont vivre sur le même toit. Je crois que même le vieux lui fait une petite soupe. Et je crois même que Frankenstein ramène du bois. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Il
vit vraiment... Le vieux joue de la musique, du violon.
Voilà, donc c'est vraiment...
Il est aveugle, donc effectivement, donc il peut pas...
C'est un vieux couple. Il y a cette scène géniale donc, avec Elsa Lanchester, donc, qui joue le rôle de la créature de Frankenstein, qui elle-même était la femme de Charlton, grand comédien britannique homosexuel, qui a réalisé le film en 1955, qui a réalisé son seul film La Nuit du Chasseur, qui était homosexuel. Donc il y avait vraiment autour de James Whale toute une équipe queer, que ce soit du maquilleur au décorateur. Et puis surtout, il y a un humour queer drag queen complètement délirant, avec une actrice phénoménale qu'on retrouve dans tous les films de James Whale, qui s'appelle Una Connor. Une espèce de vieille bonne femme toute maigre qui a vraiment une tête de mégère, mais surtout avec une voix hyper aiguë et qui poussait des cris de drag queen complètement dingue et qui font hurler de rire. C'est vraiment l'humour PD à fond. Et surtout, elle faisait beaucoup rire le cinéaste qu'il employait dans tous ses films, et notamment dans L'Homme Invisible, où elle a des séquences où elle pousse des cris absolument géniaux. Et elle est absolument géniale. Et là, on est vraiment dans une sorte de caricature, effectivement, des femmes qu'on retrouve aussi chez les drag queens. Il y a un humour camp chez James Whale qui est très, très présent. Et en plus, ce sont des chefs-d'œuvre. Il va réaliser aussi en 1933 L'Homme Invisible, avec Claude Rains, toujours avec Una Connor, hein, qui pousse des cris. Là, L'Homme Invisible, on voit clairement de quoi on parle, hein, l'invisibilité des homosexuels et aussi le fait que ils ont une vie aussi invisible, en fait, hein. Donc là, on est là-dessus. Et il va aussi réaliser en 1932 un film, alors pour le coup, complètement délirant et complètement drôle, qui est quasi invisible, qui s'appelle une soirée étrange, dans lequel toutes les perversions possibles et imaginables sont représentées. Ce sont trois personnages qui se perdent dans la nuit, qui arrivent dans une maison. C'est le début, si vous voulez, du Rocky Horror Picture Show, tout simplement. Ils arrivent dans une maison de fous, la famille Femme, en plus. Et là, ils vont passer une nuit complètement délirante. On va parler de nécrologie, on va parler de gérontophilie, on va parler d'homosexualité, on va parler de toutes les sexualités. Et c'est encore une fois James Whale qui réalise ça. Et tu as raison de le dire, en 1932, avant l'adoption par les studios du code Hays, qui sera mis en place en 1934, et dans l'histoire du cinéma, vous voyez clairement une différence entre le cinéma qui se fait à Hollywood avant 1934 et le cinéma qui se fait après 1934. Avant 1934, on peut parler de tout, de prostitution, d'homosexualité, de perversion sexuelle. À partir de 1934, c'est fini tout ça.
Il faut aller en Grande-Bretagne pour revoir peut-être plus de liberté chez la Hammer.
Alors ensuite,
les fameux studios de la Hammer, studios britanniques,
voilà,
qui ont produit beaucoup de Dracula notamment.
Donc 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, le petit studio de la Hammer donc rachète les droits à la Universal d'adaptation des monstres de la Universal et ils vont les remettre au goût du jour. D'abord avec l'apparition de la couleur, c'est la grande époque du Technicolor, c'est l'apparition aussi du gore, c'est la première fois qu'on va avoir du sang rouge à l'écran comme ça. Et c'est aussi l'apparition de la sensualité et la sexualité, avec un Dracula beaucoup plus sensuel que Bela Lugosi. Ça va être Christopher Lee, le Latin lover extraordinaire avec une chemise ouverte, qui croque les femmes dans le cou, et dès qu'elles sont croquées, elles deviennent complètement nymphos. À partir de là, il y a des décolletés complètement exubérants qui arrivent. Il y a une sensualité et un côté gore qui va beaucoup plus loin, bien sûr, que les films de monstres des années 30, qui étaient plus des films expressionnistes. Et donc, la Hammer ne va pas vraiment traiter de l'homosexualité là-dedans. Ce n'est pas vraiment leur sujet. C'est plus la sexualité et la bestialité dans la sexualité. Par contre, il va y avoir un film absolument incroyable qui sort en 1960, qui s'appelle « Les maîtresses de Dracula ». Un titre complètement mensonger parce que le vampire en question est pédé comme un phoque. C'est un jeune aristocrate d'une vingtaine d'années qui est séquestré par sa maman dans son château. Donc lui, il est vampire. Sa maman, elle le séquestre et elle l'attache avec une chaîne au pied pour pas qu'il sorte la nuit. Voilà. Donc là, on voit clairement l'allusion.
C'est le rôle de la femme, la mère castratrice, voilà, freudienne, etc.
Voilà, d'accord. Conan Freudet. C'est d'une beauté absolue. Et ensuite, dans les années 60-70, avec la libération de la sexualité, la libération des femmes, les films de la Hammer vont tendre de plus en plus vers le cinéma érotique.
Ouais.
Et donc là, il va y avoir toute une saga de films érotiques, notamment de films lesbiens érotiques, pour exciter les hétéros.
Voilà, on va rester dans le vampirisme. Là, on va revenir aux vampires, puisque finalement, on revient souvent aux vampires dans les thèmes de l'homosexualité. Ça me fait penser au film donc, Le Bal des Vampires de Roman Polanski, où il faisait un clin d'œil, même un énorme clin d'œil, c'est plus qu'un clin d'œil, à l'homosexualité, donc vampiresque, avec le fils de Dracula, qui est dans Le Bal des Vampires, qui est complètement pédé. Il drague Roman Polanski.
Qui est maquillé.
Voilà, et Roman Polanski lui fout le livre qu'il est en train de lire dans les dents quand l'autre veut lui mordre le cou. Enfin, et puis il y a une course-poursuite dans le château de Dracula. C'est une scène absolument géniale. Le fils de Dracula est en chemise de nuit. Enfin, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que le thème vampiresque et le thème homosexuel sont souvent liés. Comme je le disais, il y a ce côté aussi un peu raffiné, aristocrate, etc. Bon, même si c'est un peu stéréotypé. Je pense aussi aux Prédateurs, mais peut-être qu'on en reviendra, parce que Prédateurs, en plus, ont été diffusés. Les Prédateurs, le film a été diffusé
en ouverture du festival en 2013.
Voilà, un film avec Catherine Deneuve et David Bowie, dont nous fêtons malheureusement un an depuis sa disparition. Et là aussi, ce sont quand même des personnages qui sont extrêmement sophistiqués dans les Prédateurs, qui sont des vampires. C'est très sophistiqué. Elle descend d'une grande lignée égyptienne. Lui, c'est quand même un aristocrate du 18e.
Ah, c'est beau, oui, c'est la classe. Et voilà. C'est Deneuve. Voilà. C'est la classe. Ouais. En plus, on est dans une esthétique new wave, post-punk, new wave, new look. Mmh. Ils vont draguer dans les boîtes de nuit, des mecs et des nanas. Ils sont bisexuels, c'est hyper branché.
Oui.
Et voilà. Et puis, ils draguent les nanas et les mecs. Mais avant ça, avant de revenir au Prédateur, il faut revenir à la source du thème de la femme vampire.
Oui, parce qu'il y a la femme vampire. C'est différent de l'homme vampire.
Voilà, c'est ça. Voilà.
C'est pas la même approche.
C'est pas la même approche.
Mais ça concerne aussi l'homosexualité féminine, donc, dans ce cas-là.
L'homosexualité féminine, mais plutôt du côté, on va dire, de l'archétype ou plutôt des stéréotypes.
Mmh.
Autant on avait des cinéastes donc, qui utilisaient la fable pour parler de la différence et de la persécution des homosexuels, autant il va y avoir ensuite le fantasme de la femme, le fantasme de la lesbienne. Et lui qui n'est pas vu par les gays, qui est plutôt vu par les hétéros, si vous voulez. Donc, la femme lesbienne, c'est quoi? C'est forcément une femme vénéneuse, c'est forcément une femme charismatique, machiavélique, qui fait des malédictions, qui est méchante, voilà. C'est
tout. Et qui n'aime pas les hommes aussi.
Qui n'aime pas les hommes. Donc elle est mauvaise, voilà. Mmh. Elle est mauvaise. C'est une femme dont
c'est un danger pour le patriarcat.
C'est exactement ça. C'est un danger. Il faut se méfier d'elle. Et là, il faut la tuer, effectivement. Mais en attendant, si on peut se rincer les yeux un peu, ça peut faire des scènes saphiques, un petit peu esthétiques, on prend. Alors, ça commence dès 1900. Ça commence bien avant même le roman de Bram Stoker, parce qu'il y a, un roman irlandais qui paraît. Non, une nouvelle d'un auteur irlandais qui paraît, qui s'appelle Carmilla.
Mm.
Qui est avant Dracula, et Carmilla est clairement une vampire lesbienne, ouais. Est entourée que de femmes, et elle sème une malédiction dans un village.
Ouais.
Et donc ça, il va y avoir une adaptation au cinéma qui s'appelle Vampire de Dreyer, qui est un chef-d'œuvre absolu. Le premier film parlant de Dreyer, c'est une merveille. Mais malheureusement, dans ce film-là, le côté...
Dreyer qui est connu pour Jeanne d'Arc.
Oui. Mm. Mais qui malheureusement le côté lesbienne n'est pas vraiment exploité dans le film dans ce film là qui s'appelle Vampire. Il faut attendre 1936 avec La fille de Dracula, film de la Universal, dans lequel la fille de Dracula est clairement une lesbienne, est entourée que de femmes, et elle ne croque que des femmes, et surtout elle va tomber amoureuse d'une femme, elle va lui lancer une espèce de malédiction, va s'acharner sur cette nana. Et en fait, elle est vraiment physiquement représentée un petit peu comme, comme la méchante dans Rebecca d'Hitchcock.
Ouais.
Donc, tout en noir, les cheveux longs, elle a une voix grave. Et puis vraiment, elle a tous les, elle a toutes les perversions et tous les défauts du monde. C'est vraiment le mal. Voilà. Mmh. Donc ça, on est plutôt dans, dans les stéréotypes lesbiens de la femme vénéneuse à tuer. Donc ça, on va l'avoir dans, dans toute la lignée.
Donc ça, c'est un film américain qui, de toute façon, contourne un peu le code ICE. Mais
non, oui, peut-être, voilà.
Le contourne un petit peu, mais quand même, elle est très, la personne, le personnage de la fille de Dracula est très typé, très représentatif, en fait, d'une idée qu'on se fait de la femme lesbienne.
C'est ça.
Qui, à la base, est une femme mauvaise pour la société. Puis, de toute façon, ça se termine mal, ça se termine toujours mal, en général.
Oui, oui.
Pour les vampires.
Elle se prend un pieu, quand même.
Elle se prend quand même un pieu dans le cœur, oui. Ce qui est un comble pour une femme lesbienne, mais bon, pas seulement d'ailleurs. Mais c'est vrai que voilà, elle est terrible cette femme. On a vu des, enfin moi j'ai pas vu le film, mais j'ai vu des extraits de ce film.
Il est sorti en DVD il y a pas longtemps. Didier Haute-Bétonnier avait fait un article dans Hétéroclite.
Mais ça devait faire très très peur ce film à l'époque. J'imagine les gens qui voyaient cette femme noire apparaître sur l'écran. Alors les gens quand ils rentraient chez eux devaient avoir peur, les filles, les jeunes filles.
Surtout
s'accrocher aux bras de leurs hommes en disant protège-nous contre les lesbiennes vampires.
Et comme elle a un charme magnétique et tout, les femmes se dévêtissaient un peu quand elle la voyait, tu vois.
Ouais.
Donc, il y a des scènes
oui,
un peu...
parce qu'elle les hypnotisait.
Voilà, c'est ça.
C'est hypnotisé plutôt. Elle les hypnotisait, voilà.
Alors, il y a un film que j'adore, moi, personnellement. C'est un film de 1971 qui s'appelle Les Lèvres Rouges, ouais, avec Delphine Seyrig. C'est un film belge d'une beauté absolue. D'ailleurs, ce film préfigure les prédateurs. C'est une parabole sur la comtesse Baltori, vous savez, la fameuse comtesse qui prenait des sangs de
des
bains de sang de vierge,
oui, voilà,
pour rester jeune, hein. C'est
voilà,
un petit peu notre secret de,
c'est tout à fait
de
ça,
jeunesse.
Ne dévoile pas tout.
Et donc les Lèvres Rouges donc est une splendeur absolue avec Delphine Seyrig, donc qui était quand même il faut rappeler qui c'était, grande militante activiste féministe. Elle trouve peut-être le meilleur rôle de sa vie avec le rôle de Fabienne Tabar chez Truffaut. Et dans lequel elle va s'amouracher d'un couple hétéro, et elle va les pervertir tous les deux. Elle va coucher avec le mec et avec la nana, et à la fin, elle finit avec la nana, quand même.
Ouais.
Donc ça reprend, si tu veux, le thème des prédateurs,
ouais,
voilà, ou le thème de la vampire bisexuelle, voilà, qu'on retrouve exactement dans le film Les Prédateurs.
Il y a eu toute une succession après de films de série B, Lesbian Vampire Killers, par exemple, des choses comme ça.
Voilà, alors ça, c'est des parodies,
oui,
délirantes, ouais, pour faire marrer.
Mauvais goût, en général.
Le mauvais goût.
Pas grand intérêt cinématographique.
Non, non, voilà.
Ce sera tout pour les vampires lesbiennes.
Non, oui, pour les ouais, on peut alors, j'ai plein de titres, hein, si ouais, vous voulez. Alors, il y a toute une flopée de films pseudo-érotiques, italiens, anglais, espagnols avec Jesus Franco, mexicains. Il y a un film que j'aimerais bien voir, le titre fait envie, Vampiros Lesbos.
Oui, ça, c'est une série B ça aussi.
Hein. Bah oui, ça oui. Et il y a aussi, sinon, il y a un autre monstre de toute façon qui traite clairement, à mon avis, de l'homosexualité cachée, c'est le Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
Ouais.
À mon avis... C'est quoi l'histoire de Dr. Jekyll? C'est pareil, c'est dans l'époque victorienne. C'est très proche aussi du portrait de Dorian Gray. C'est un personnage qui est engoncé dans ses traditions, dans l'étau de la société victorienne et qui a besoin d'explorer l'animalité qu'il a en lui. Donc, il prend une boisson en fait qui non pas va le transformer, mais en fait qui va le désinhiber tout simplement et qui va ressortir il va se lâcher complètement et fréquenter les bas-fonds. Mais dans les bas-fonds, c'est quoi? C'est les gays, c'est les prostituées, c'est les marins. Enfin, ouais, c'est ça. C'est le côté bas-fond de Londres. Et le message caché du docteur Jekyll Mr. Hyde. Moi, j'ai toujours vu une histoire d'homosexualité. Tout comme dans le portrait d'Dorian Gray, c'est quoi? C'est un personnage qui cache sa vraie nature à la société victorienne, et sa vraie nature, elle est peinte sur un tableau, voilà. Mmh. Et
seul le tableau prend le vieillissement et les mauvais traits quoi de son caractère, et lui reste jeune éternellement.
Alors il y a pour revenir sur le thème de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, la Hammer justement dans les années 70, au moment où la Hammer cherchait un nouveau public, un public plus jeune, et qu'elle va plus vers le cinéma érotique, elle va réaliser une comédie très drôle qui s'appelle un film d'horreur très drôle qui s'appelle Dr. Jekyll et Sister Hyde. Dans lequel le personnage donc va se transformer en femme, mais en femme très perverse.
Ouais.
Il y a une scène très drôle où le personnage se Donc il boit son breuvage, il se voit devant le miroir, il y a les seins qui poussent, il se caresse les seins devant le miroir. C'est quand même très drôle. Dr. Jekyll et Sister Hyde, 1971, Hammer Film.
D'accord. Bon, eh bien, en fait, on a vraiment beaucoup appris ce soir, mon petit Bernard, hein, sur les monstres, on n'imagine pas. Mais bon, c'est vrai qu'il y a certains sujets qui sont évidents, qui sautent aux yeux. Et moi, je reviens toujours au thème du vampire. Je pense à Entretien avec un vampire, qui est basé aussi sur un roman, où l'homo-érotisme est permanent, quoi, dans ce film.
Ah oui, permanent. Oui, oui. Oui, mais carrément une histoire d'amour gay, en plus, ouais. entre le vampire Lestat et... Ouais. Et l'autre, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Oui, ouais. C'est une histoire d'amour gay encore plus flagrante dans le livre.
Oui, voilà, c'est encore plus flagrant, effectivement, dans le roman que dans le film qui en a été tiré. Alors, tu parlais de l'homme invisible, l'invisibilité. Donc, on s'est dit, c'est même toi qui m'a suggéré de passer le titre de Invisible Man, chanté évidemment par Freddie Mercury, les Queen, The Queen, qu'on va écouter maintenant, toujours dans le thème de notre émission. Ta-ta-ta-ta, c'est Bernardo.
I'm the invisible man. I'm the invisible, invisible, invisible man. Incredible how you can see right through me.
pluriel gay.
Bon, on était en train de se prendre en photo dans la galerie des monstres, tu sais. On est dans le thème. Alors du coup, on n'a pas beaucoup parlé de science-fiction, mais je trouve que c'est intéressant peut-être d'aborder ce sujet-là rapidement, puisque l'émission va toucher à sa fin.
Eh bien oui, puisque la science-fiction, ça permet justement de parler justement de côté transgenre, c'est le cas de le dire, hein, avec des extraterrestres.
Alien, par exemple.
Alien, mais avant, il y a un film important comme qui s'appelle L'homme qui venait d'ailleurs, avec David Bowie, ouais, qui est très intéressant justement pour le côté queer et transgenre. Pourquoi ? Parce que il y a une scène d'amour notamment dans ce film dans lequel donc le personnage de Newton interprété par Bowie s'enlève sa peau humaine et dessous donc il est complètement asexué, il a pas de sexe, il a pas de téton. Il y a une scène de sensualité où il fait l'amour avec une terrienne absolument magnifique sur une musique un peu psychédélique avec des bruits de chants de baleines derrière, c'est très beau. Et donc là on est complètement dans le queer, donc ni homme ni femme, androgyne, un objet. Bowie, c'est l'objet de fascination absolue. Mais c'est l'objet aussi antisexuel. C'est pas quelqu'un avec qui on a envie de coucher, Bowie. Par contre, c'est quelqu'un qui a une fascination absolue. Et là, dans L'homme qui vient d'ailleurs, on parle vraiment bien de ça, de ce côté queer, transgenre, de fascination, mais aussi d'asexué. C'est très important. Et après, effectivement, il va y avoir une évolution de la représentation des femmes au sein des films d'action et des films d'horreur, qui commence avec Alien, bien entendu, avec le personnage d'Hélène Ripley joué par Sigourney Weaver, qui est un personnage complètement androgyne.
Oui, voilà. On pourrait peut-être pas l'assimiler au transgenre. Je sais que c'était un personnage qui est devenu culte pour la communauté lesbienne aux États-Unis, notamment la femme. Parce que Sigourney Weaver reste une femme quand même, tout en étant un tempérament d'homme, en fait.
L'androgyne.
Tel qu'on lui, voilà.
Elle est androgyne.
Elle porte des armes, elle est très
surtout,
forte.
Elle prend le pouvoir dans le vaisseau.
Oui.
Elle prend le pouvoir dans le vaisseau, elle s'arme d'armes.
C'est la seule survivante. Hein,
c'est la seule survivante, oui. C'est ça, c'est une
survivor.
C'est une survivante, c'est une combative, elle est extraordinaire. Avec en plus un succès, avec un corps désérotisé, on va dire. À la fin du film, on la voit en slip,
oui,
où elle est dans une petite, petite chaloupe, voilà, avec le monstre. On la voit en slip. C'est pas un objet d'érotisme, on va dire. Hein. C'est pas les seins, c'est pas les formes. Et en ça, la représentation, il y a un avant et un après Sigourney Weaver,
ouais,
dans le cinéma d'action. Et après, ça va aller, par exemple, au personnage de Sarah Connor dans Terminator, dans lequel elle est à l'égal des hommes. Voilà. Et c'est ça qui est vraiment fabuleux dans Alien, c'est qu'elle est l'égal des hommes. Et après, il y a tout le discours, effectivement, sur le côté, le fait d'enfanter de manière non traditionnelle, on va dire, hein, le monstre qui te féconde, mais
ah
mais,
oui, tu parles d'alien là.
D'alien,
ah
voilà,
oui, tu vois ça comme ça, bah comme une sorte de quoi, alors GPA,
évidemment,
PMA,
évidemment, ça ah oui, ça bouscule complètement toutes les modes. Et en plus, dans un des aliens, je crois que c'est le 4, elle va s'attacher à son enfant alors qu'en fait elle a pas été pénétrée, on va dire, de manière traditionnelle.
Ouais.
Il y a tout ce discours aussi, pour le coup, profondément transgenre là-dedans, qui est très intéressant chez Alien. On peut faire des analyses si on avait le temps.
Bien sûr. Et sinon, qu'est-ce qu'on pourrait... La Guerre des Étoiles, tu vois quelque chose de queer dans la Guerre des Étoiles?
Oui, je vois pas de queer, mais je vois quand même... Il y a quand même un cahier des charges dans tous les Star Wars où c'est quand même l'héroïne. Il y a une héroïne principale. Le Star Wars, c'est quoi? C'est la princesse Leia qui n'a pas besoin des hommes. Les hommes vont la délivrer, mais elle n'a absolument pas besoin d'eux. Et notamment dans le dernier aussi, c'est ça. Dans tous les Star Wars, c'est toujours un personnage féminin central qui n'a pas besoin des hommes.
Alors, pour revenir à la science-fiction, il y a dans le premier Mad Max, un couple homo. Je ne sais pas si tu...
Dans le 2.
C'est dans le deuxième.
Dans le 2, voilà. Oui,
d'hommes, hein, je parle d'hommes.
Oui, d'homme. De punks.
Voilà, c'est ça.
Oui, avec la petite queue, oui. Oui, derrière,
et,
oui, oui.
Voilà, et il y en a un qui meurt d'ailleurs. Et
l'autre,
tout le monde,
il pleure.
Voilà, et tout le monde participe un petit peu au deuil de celui qui a perdu son compagnon. Il y a Tina Turner aussi qui a fait une apparition extraordinaire.
Dans le 3.
Dans le 3,
oui. Oui, c'est merveilleux. parlons du Mad Max 4 quand même, d'abord qui est un chef-d'œuvre du cinéma,
ouais,
dans lequel le personnage de Mad Max passe complètement au second plan, et c'est le personnage féminin, une espèce de Mad Max au féminin qui est le sujet central du film. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que George Miller s'est complètement adapté à son temps. C'est plus Mad Max le macho en cuir, très érotisé d'ailleurs, très gay d'ailleurs, tout en cuir et tout. Non, c'est une nana qui prend le pouvoir, qui conduit le camion et qui est plus forte que Mad Max, qui n'a aucun charisme dans ce dernier épisode. C'est un pur film féministe, le Mad Max Fury Road.
D'accord. Alors, ce qu'il y a de bien, tu vois, Bernard, dans l'émission Pluriel Guest, et on nous écoute, c'est qu'en fait, on se rend compte que tout est faux. En réalité, tout est LGBT, tout est queer et tout est camp partout. Heureusement, nous sommes là pour mettre enfin les bonnes lunettes pour la bonne appréciation de tous ces chefs-d'œuvre dont nous venons de parler. Pour finir, je voudrais évoquer des personnages. Alors, on a parlé de transgenre, d'homosexualité, féminine, masculine. Il y a aussi le côté kitsch, camp. Alors, moi, je pense par exemple à un film comme Barbarella, qui est très kitsch, qui a un côté camp aussi, quand même.
Complètement folle.
Barbarella, qui est une coproduction franco-italienne.
Voilà, avec Dino Laurentiis.
Voilà.
Avec Dino Laurentiis, qui a coproduit, qui après va produire aussi Flash Gordon. On est vraiment dans la même mouvance de film complètement doré, barjot et queer. Oui, oui.
Flash Gordon, c'est un peu collant moule-boule aussi, un truc comme
ça. Oui, oui. Mais voilà, on est dans l'univers camp, effectivement. Ouais. Et puis, il y a surtout ce personnage joué par Ugo Tognazzi.
Oui,
qui
tout poilu.
Oui, mais qui est une folle invétérée dans le film. Ouais. Je pense même que c'était une folle dans la vraie vie. Mais là, c'est une folle tordue. Elle a une scène d'amour avec lui complètement improbable.
C'est Jane Fonda, l'actrice principale, quoi. Qui est sublime d'ailleurs dans le film, qui est très belle.
Mais qui était la compagne à l'époque du metteur en scène Roger Vadim.
Oui, voilà. Pour aller un petit peu plus loin encore dans le temps, surtout, alors là on va revenir un peu comme au début de notre émission, on parlait des origines du cinéma. On pense par exemple le côté queer ou camp de la série de Feuillade, où on voit le personnage de Musidora, qui est un personnage féminin mais asexué un petit peu.
C'est ça, on aurait dû commencer par là d'ailleurs. Ouais. Voilà. Donc effectivement, Louis Feuillade réalise une série feuilletonesque fabuleuse qui s'appelle Les Vampires, avec ça se passe dans les bas-fonds de Paris, on est chez les Apaches, et donc la reine, on va dire la chef de ces méchants s'appelle Irma Vep, donc l'anagramme de vampire.
Ouais.
Et donc en fait elle est complètement désexualisée, elle a une combinaison noire, elle marche sur les toits, tout ça, et donc c'est une espèce de fantôme en fait, elle a quelque chose de fantomatique chez elle. Et deux, effectivement, de désexualiser. Et ça, c'est très important. On est en 1915, quand même. C'est-à-dire qu'une femme héroïne d'un film, quand même, très populaire, soit désexualisée. C'est-à-dire que ses seins sont aplatis, tout ça. C'est vraiment... c'est étonnant, quand même, en 1915.
Là, on est dans le queer, on va dire.
Là, du coup, on est queer et du coup, on se rapproche de Alien, là.
Voilà, comme ça, la boucle est bouclée. Voilà, de Musidora... Parce que c'est le nom du personnage, hein, c'est Musidora.
Non, c'est le nom de l'actrice.
C'est le nom de l'actrice, voilà.
Voilà, c'est ça. De l'artiste.
Qui interprète donc le personnage.
Dirma Vep.
Dans le film, donc, Les Vampires, en fait. Le film s'appelle comme ça.
Les Vampires de Louis Feuillade, 1915. Vous le trouvez en DVD.
Voilà, j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus. Vous aurez une autre vision maintenant lorsque vous regarderez des films d'horreur.
Ne regardons pas les films passivement. Oui. Tous les films ont des messages.
À décrypter.
À décrypter, voilà.
Ouais. Il suffit d'avoir le bon code, quoi. Voilà. Donc ce soir, on vous en a donné un précieux pour la suite des événements. Voilà, quand vous regardez les films d'horreur, vous ne les regarderez pas du même œil. En tout cas, merci. Déjà, merci Bernard d'être à la régie, d'avoir affronté encore une fois le froid hivernal, d'être venu jusque à nous. Et puis, Yvan, merci pour cette nouvelle émission.
Ce fut un plaisir.
Voilà, donc on rappelle que le festival Écran Mixte, c'est en mars.
8 au 14 mars.
Voilà, on tiendra évidemment. Et puis tu reviendras nous voir, hein, on tiendra nos auditeurs et auditrices au courant. Et puis tu viendras nous voir, tu viens toujours nous voir. Et puis j'espère qu'on pourra faire des petits reportages pendant le festival. Mais
surtout
aussi.
Qu'on a un invité d'honneur international cette année, le réalisateur américain Jonathan Cahuet, qui a réalisé deux films cultes, Tarnation et Walk Away Ronnie. Il sera à Lyon pendant toute la durée du festival.
Donc l'occasion, effectivement, d'en reparler avant le festival et pendant le festival et de tous les événements qui vont avoir lieu, qui seront donc très riches, malgré la suppression.
Mais on s'est bien débrouillé.
Voilà, c'est ça, malgré la suppression de la subvention de la région. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je pense que l'émission va pouvoir arriver à son terme. Nous n'aurons pas le temps de mettre une troisième musique, Bernard, ce sera un peu injuste. Juste le début, alors l'introduction. Voilà, on aime bien, nous, les introductions. Bernard. Je ne sais plus quoi dire, là. Hein. Voilà.
L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.